pour une ville nature. Un cycle Cité Verte Europe organisé par Valor, une campagne financée avec le concours de l'Union européenne.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Jardin Jardin aux Tuileries, la grande fête du végétal, du jardin urbain et de la nature en ville. C'est d'ici que nous émettons aujourd'hui, en public, depuis le Jardin des Tuileries, pour cette série d'émissions pour une ville nature, vous l'avez entendu, sous l'égide du programme Cité Verte Europe, avec le soutien de l'Union européenne et le relais en France de Valor. Alors quelques mots très rapidement sur Valor, c'est l'interprofession du végétal, des fleurs, pour ne pas dire de la fleuristerie, et du paysage. Nous sommes ici précisément dans le carré du sanglier. Nous sommes installés à l'ombre de grands marronniers. À l'ombre des arbres, c'est le titre qui sert de chapeau, de parasol ou devrais-je dire d'ombrelle à cette émission. Bonjour Caroline Molly.
Bonjour Pierre.
Alors tout d'abord Madame Molly, avant de vous présenter, j'ai une question, la première à vous poser, car elle a trait à une des très nombreuses incises de votre ouvrage, paru tout récemment aux éditions de La Chaux et Niestlé, et dont je me suis véritablement, et je le dis sans flagornerie, délecté, qui s'appelle « À l'ombre des arbres » et qui est sous-titré « Planter la ville pour demain ». Alors, Madame Molly, pouvons-nous qualifier ce double alignement de marronniers de maille? Et qu'est-ce qu'un maille?
Très intéressante question pour commencer, parce que effectivement, le maille est un terme très ancien que j'ai découvert en faisant faire des recherches par une historienne il y a de ça une trentaine d'années quand j'ai commencé à m'intéresser aux arbres dans la ville. Et ce terme m'étonnait. J'ai toujours beaucoup aimé la structure orthogonale des arbres dans la ville. Pour moi, c'est une sorte de repère qui accompagne l'architecture. Et donc, ce mot de maille m'a interpellée. Et cette chercheuse historienne nous a révélé qu'en fait, le maille datait du XVIe siècle. Et c'était un lieu planté d'arbres en alignement, double allée, quadruple allée, sous lequel se déroulaient les jeux de maille qui étaient extrêmement populaires à l'époque et plus que populaires. C'est un jeu qu'adorait Henri IV. Et Henri IV, quand il s'est déplacé dans les différentes villes de France, a financé ou promu la création de mailles dans toutes les villes de France. Donc, le jeu du maille qui se joue avec un maillet, qui est une espèce de mixte entre le jeu de boule aujourd'hui et le jeu de maillet. Le jeu de maille se déroulait avec un maillet qui passait entre des arceaux et il se déroulait sous un couvert d'arbres, sous les frondaisons. Et aujourd'hui, ces frondaisons certains mailles sont restés, ont traversé le temps. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a certaines avenues du mail ou le mail de tel endroit, de telle ville, etc., qui sert au jeu de boules et qui malheureusement sert trop souvent de parking maintenant parce qu'il y a eu une évolution assez dramatique dans le temps de nos structures arborées.
Alors le mail vient entre autres du jeu du mail. Chères auditrices, chers auditeurs et chères spectatrices et spectateurs, vous ne le voyez pas à l'antenne, mais ne soyez pas étonnés si vous retrouvez en déambulant dans Jardin Jardin un jeu de pétanque sous les marronniers. C'est un clin d'œil que nous avons fait grâce à l'entreprise Obut, entreprise de la Loire, qui nous fait le plaisir d'avoir joué le jeu, si je puis dire, de ce terrain de pétanque sous le mail.
Sous le mail.
Alors, Caroline Molly, vous êtes architecte paysagiste. Et en disant cela, nous sommes un peu subversifs car la loi nous impose le terme de paysagiste conceptrice. C'est dit. Vous avez notamment été présidente de la Fédération française du paysage, d'ailleurs dont le palmarès 2023 orne les murs de cet abri temporaire, pour ne pas dire la tente, qui abrite cette conférence et cette émission de radio. Vous avez consacré votre vie professionnelle, et quand on connaît votre passion et celle communicative des professionnels du végétal, sans doute bien plus aux arbres. Vous avez démarré au début des années 80, en tous les cas, vous intégrez la mission du paysage du ministère en charge de l'environnement, qui ne s'appelait pas encore la transition écologique, où vous menez un travail sur les arbres dits d'ornement, nous reviendrons sur ce terme. Et vous êtes connu dans la branche du paysage, c'était facile, pour avoir écrit un ouvrage de référence, L'urbanisme végétal, paru en 1993 et réédité en 2009 aux éditions Actes Sud, avec d'ailleurs le concours de Valor, et il était alors titré « Des arbres dans la ville », sous-titré « L'urbanisme végétal ». Ce sont donc aujourd'hui plus de 40 ans au service des arbres et 30 ans qui embrassent votre première publication et la nouvelle aujourd'hui qui s'appelle, je le rappelle, « À l'ombre des arbres ». Et je vous invite à découvrir cet ouvrage qui fait en fait la synthèse à la fois de votre riche expérience professionnelle, de votre observation, parce qu'il est richement documenté en photos, mais aussi des connaissances scientifiques. Et je tiens à saluer ici Corinne Bourgerie, qui est l'autrice de votre préface, et qui est pour les professionnels une sommité, puisqu'elle est co-auteure avec Laurent Maillet de l'arboriculture urbaine, que des références dans notre métier. Alors, première question, sérieuse, après l'anecdote du mail, qu'est-ce qu'un arbre ?
C'est un compagnon de notre quotidien. Mmh. Nous ne pourrions pas vivre sans arbres. Il y a énormément de littérature en ce moment qui sort sur les arbres, et c'est tant mieux. Les arbres deviennent vraiment des êtres vivants qui commencent à être reconnus comme vivants, comme indispensables, comme... Nous ne pourrions pas vivre sans arbres, tout simplement. Qu'est-ce qu'un arbre ? Alors, pour moi, dans le contexte dans lequel j'ai travaillé cet urbanisme végétal, pour moi, un arbre, c'est d'abord un sujet d'émerveillement, c'est un sujet de passion. J'aime les arbres, je les trouve magnifiques. Cet émerveillement, c'est aussi le fait que tous les jours, il nous dit quelque chose, il nous raconte quelque chose. Et plus spécifiquement dans la ville, disons que c'est un des jalons majeurs du pacte culture-nature que le citadin entretient avec le monde naturel. Et plus précisément, pour la vie quotidienne, C'est l'élément qui structure le plus fort l'espace public, l'espace qui nous est consacré, notre espace de vie dans la ville.
Commun à tous.
Commun à tous, et qui crée des lieux. Et qui crée des lieux, justement, un mail dans une ville n'est pas pareil qu'une place à l'italienne sans arbres. Donc ces lieux sont distincts, différents. Et ce sont des lieux de vie, ce sont des lieux de sociabilité. Je repense aux grandes allées Paul Riquet à Béziers, où se déroulent les marchés, les fêtes. C'est vraiment des lieux que l'on s'approprie et qui, de plus, sont gratuits. Je veux dire, vous pouvez aller dans le jardin ou ici, vous installer sous un arbre, sur un banc, personne ne vous dira rien et vous avez l'impression d'être le roi du monde.
Alors, vous l'avez dit, c'est une source d'émerveillement, c'est très bien documenté dans votre ouvrage, comme dans le précédent d'ailleurs, et vous avez parlé d'espace. Vous avez cité un mot tout à l'heure qui revient souvent dans votre dernier ouvrage, c'est « arbre de compagnie ». Pourquoi cette expression, Caroline Molly ?
Parce que l'arbre d'ornement ne me plaît pas beaucoup, l'arbre d'agrément un peu mieux. L'arbre hors forêt, je trouve que c'est vu en négatif, c'est pas intéressant. L'arbre tout court, ça peut être tous les arbres et on a parfois tendance à ne pas faire la distinction entre les arbres de la ville ou les arbres de notre quotidien. Et parce que je crois que, bien sûr, la référence aux animaux de compagnie n'est pas anodine du tout. Il m'a semblé que, en fait, nous avions tous, les uns et les autres, un lien particulier avec les arbres et parfois avec un arbre. Et je me réfère à un très beau film de Raymond Depardon qui s'appelle « Mon arbre », où en fait, il a interrogé un certain nombre de personnes pour leur demander « Quel est votre arbre ?» Et tous, chacun d'entre nous, nous avons un arbre, au moins un arbre, en référence dans notre mémoire, qui nous apporte des souvenirs heureux.
Ce film avec Claudie Nougaret, Claudie Nougaret. Qui avait été diffusé à la Fondation
Cartier.
Très beau
film, très beau film.
Magnifique.
Très émouvant.
On invite tout le monde à le voir. Alors, ces arbres de compagnie, vous le dites, ils sont source d'apaisement, d'émerveillement. Et vous expliquez très bien. Ce livre est à la portée du grand public. Le précédent était peut-être plus difficile d'accès. Là, vous faites un effort très conséquent d'illustration. On voit d'ailleurs un droit de suite entre les premières photos que vous aviez faites et puis 10, 15, 20, 30 ans plus tard. Et il y a aussi des illustrations dont il faut souligner la qualité. Et vous parlez beaucoup, et c'est là où nous allons en venir maintenant, des conditions qui permettent aux arbres de bien s'épanouir. Vous parlez même, on va y revenir, d'un tiercé gagnant, de l'air, de la terre, du temps. Oh, on aimerait tous en avoir, et c'est vraiment, ce sont vraiment des facteurs limitants, probablement encore plus que jamais dans notre époque. Et cette pédagogie, vous la partagez par exemple avec d'illustres confrères comme Francis Allais. Je vais souligner quand même dans Des arbres dans la ville, vous reproduisiez un croquis et vous en parlez dans votre nouvel ouvrage de Francis Allais, dont il a le secret, qui montre un arbre et un être humain et qui est très explicite. Le titre c'est « Si à gauche c'est un arbre, alors à droite c'est un homme ». Ça parle peu à nos auditeurs, on va essayer de l'expliciter. Le tronc équivaut à l'abdomen de l'être humain, ce qui veut dire que ses jambes et ses pieds sont ses racines, qu'on oublie très souvent, de l'air, de la terre et du temps. Et dans votre ouvrage, vous expliquez également le flux de la sève qui circule à travers l'arbre, le flux de l'eau. Et notamment, vous consacrez plusieurs doubles pages d'encadrés sur des notions qui sont vraiment dans l'air du temps, notamment le rafraîchissement. On attend beaucoup des arbres. Et vous y rappelez notamment qu'un arbre consomme pour restituer de l'eau, pour la restituer au cycle et au climat local. Par exemple, 225 litres d'eau pour un arbre de 12 mètres de haut. C'est important d'avoir des ordres de grandeur. Vous rappelez que l'ombre constitue le premier facteur de rafraîchissement, de l'ordre de 3 à 5 degrés, de 50 à 60% de consommation d'énergie évitée en matière de climatisation. Et vous citez notamment une étude de l'ADEME. Et je tiens à saluer ici Baptiste Périssin-Faber de l'ADEME et nos amis de Plantes et Cités qui ont lancé un outil qui va vous parler, qui s'appelle AVEC, adapter le végétal au climat de demain. Le clin d'œil est fait. On a cité le mail, l'histoire, les racines, c'est aussi savoir d'où l'on vient, quelque chose de très important quand on parle de paysage, d'espace. Dans votre livre, vous le décrivez très bien. Vous nous expliquez les grandes étapes de l'histoire. Ce serait une gageure en deux minutes que de vous demander un résumé, mais je vais le faire quand même. Si vous aviez trois étapes fondamentales à citer dans cette histoire de l'arbre en ville, quelles seraient-elles, Caroline Molly?
J'en mettrais quatre peut-être.
Alors quatre, je vous l'accorde.
La première, c'est justement cette multiplication des mailles dans les villes de France. Qui était la première, en fait, le premier espace public, le premier jardin public hors les murs, et qui a permis aux gens de sortir et qui était justement pour planté pour jouer au maillet. Ensuite, je mettrai la grande politique des plans d'embellissement du XVIIIe siècle, plans d'embellissement des villes du XVIIIe siècle. À cette époque, les villes explosaient à l'intérieur de leurs murs, elles étaient insalubres et elles se sont toutes développées en démolissant leurs murs. La paix était arrivée dans le royaume et elles ont donné lieu à des plans d'extension absolument faramineux qui étaient basés sur des structures d'allées arborées. Et à l'intérieur de cette structure d'allée, allait se développer la ville. C'était ce que nous avons appelé le préverdissement quand je travaillais à la mission du paysage. Donc on a préverdi les abords de la ville pour ensuite faire la ville. Et bien sûr, ces allées continuent à exister dans les villes. Par exemple, les grandes avenues de Toulouse viennent du fameux plan d'embellissement de Mondran à Toulouse. Nîmes, c'est pareil. Bordeaux, c'est pareil. C'était Tourny à Bordeaux. Donc cette période du 18e est très, très importante. Et elle est d'autant plus importante que la plupart d'entre nous pensons que les arbres dans la ville viennent du fameux, surtout à Paris, du programme des promenades de Paris qui a été lancé par Napoléon III, qui était révolutionnaire aussi.
Sous l'égide d'Alphand, qui en était le grand orchestre.
Ouais. Et qui était révolutionnaire aussi parce que là, c'était à l'intérieur de Paris, restructurer, assainir et embellir la ville de Paris et faire des promenades. Et là aussi, ça a été suivi dans toute la France. Toutes les villes se sont vues restaurées, restructurées, replantées avec ces grandes mailles, ces grandes avenues plantées. Et même le modèle a été exporté à l'étranger. Des villes comme la capitale de l'Argentine, là, Buenos Aires, a été, la ville de Bucarest, la ville de Buenos Aires a été inspirée de ces promenades de Paris. Ça fait trois ?
Ça fait trois.
Et bien la quatrième, elle est pour demain.
Et ben voilà, des arbres pour demain, c'est oui. Parfait. Et puis, encore une fois, on vous invite à parcourir et à lire en détail la l'ombre des arbres, pardon, plantés pour demain. Citons Otto Fabricius, je l'avais dans mes notes, qui est votre compagnon et qui signe beaucoup des illustrations avec vous, des photos de cet ouvrage. Et j'espère n'oublier personne. Vous nous donnerez le nom de l'illustratrice peut-être. On peut le faire tout de suite.
Julie Gaillet.
Voilà.
Julie Gaillet qui a fait un très très beau travail. Et je crois que les retours que j'ai, c'est que l'équilibre entre les photos, les croquis pédagogiques et le texte est assez efficace.
Voilà, nous avons suffisamment défloré, si je puis dire, cet ouvrage, pour ne pas dire fait de teasing. Il vous restera chacune et chacun à le parcourir. Alors, avant une petite pause musicale, dans cet ouvrage, vous abordez les... carton rouge et les feux verts de ce que vous considérez comme les mauvaises pratiques et les bonnes pratiques. Alors, c'est vrai qu'il est toujours délicat, je trouve, de décider ce qui est de bon ton ou ce qui ne l'est pas, ou de bon ou de mauvais goût. En l'occurrence, vous vous appuyez, comme nous l'avons dit, sur votre expérience et aussi sur la science. Vous parlez, pour définir une certaine époque, des 30 désastreuses. Là aussi, c'est une très belle image et j'espère que vous vous en souviendrez toutes et tous. En résumé, quelles sont les pratiques à éviter ?
Les pratiques à éviter. Alors, c'est ce que j'ai appelé, en fait, les fausses bonnes idées. Je peux revenir très rapidement sur les 30 désastreuses. C'est vrai que les 30 glorieuses ont été désastreuses pour nos amis les arbres et pour la végétation en général et pour beaucoup de choses dans la ville. Donc maintenant, il nous faut presque réparer, mais pas uniquement réparer l'espace public, pas réparer la ville, il faut réparer les mentalités. C'est-à-dire que les gens, la plupart des gens, et surtout les techniciens, les scientifiques, enfin, les politiques, tous ceux qui font la ville, qui la créent à tous les niveaux, ne savent plus ce que c'est qu'un arbre, et ne savent plus travailler dans le temps, et aussi ne savent plus faire confiance aux compétences. Il y a vraiment un manque on croit parce qu'on a un bout d'arbre dans son jardin qu'on va pouvoir planter, c'est pas vrai. Et les compétences doivent être appelées. Ça donne justement maintenant ce que j'appelle ensuite les fausses bonnes idées, c'est-à-dire que tout le monde sait tout sur tout, tout le monde croit tout, que tout est bien. Et en tant que fausses bonnes idées, pour moi, je citerai les lagages. Combien de fois, tous les jours, 10 fois par jour, tout le temps, « Ah mais madame, les lagages, ça fait du bien aux arbres ». On est tous d'accord que c'est non, et on n'arrive pas à faire passer ce non suffisamment fort et suffisamment ferme, justement basé sur des compétences, des connaissances réelles, scientifiques, techniques et tout ça. Donc, pas des lagages. Et les lagages continuent à faire des ravages.
Rien. Vous préférez la taille ?
Rien.
Parfois, rien.
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 Rien. Enfin, de l'avis de tous mes collègues, et notamment de Corinne Bourgerie, qui m'a énormément aidée pour ce livre, c'est rien. Le moins on en fait, le mieux il se porte, comme nous, en réalité.
Mais alors, quand on a un mail, justement, qui est traversé de multiples réseaux, des façades, du tramway, comment est-ce que...
Ça dépend qui est le premier. Si c'est le premier et qu'il faut faire passer des réseaux, on coupe les racines. Et puis ensuite, 30 ans après, l'arbre se casse, ou il est dépéri, ou une branche tombe. Et on se dit, vous voyez, les arbres sont dangereux. Donc voilà, c'est la question de savoir qui est le premier et qui est le plus important. Je pense que maintenant, beaucoup de villes, de plus en plus, font travailler les différents services ensemble, services des réseaux, les services de voirie, les services espaces verts, de façon à arriver à un projet commun. En fait, c'est le projet commun. Trouver les lieux où refaire les réseaux, parce qu'il y a des travaux de réassainissement à faire et tout ça, de façon à ce que chacun ait sa place et à ce que l'arbre puisse avoir suffisamment de terre.
Les lagages, on oublie. Quel serait le deuxième FBI, alors, la deuxième fausse bonne idée, Caroline Molly ?
La deuxième fausse bonne idée, il y en a beaucoup, c'est les arbres en pot. parce que vous avez noté à juste titre que j'insiste sur l'air, la terre et le temps, et qu'un arbre en pot n'a ni air ni de terre, et il a du temps, mais de toute façon il crève avant le temps. Donc pas d'arbre en pot, c'est une imposture. Bon, l'arbre n'est pas un objet de décor, l'arbre est un être vivant, et comme vous dites, il faut lui donner ce qu'il faut, ce dont il a besoin, pour ensuite qu'il nous donne ce dont nous avons besoin, c'est-à-dire essentiellement l'ombre aujourd'hui. Mmh. L'ombre, l'oxygène, un peu d'hygrométrie et tout ça, mais c'est l'ombre. Donc on est dans une espèce de paradoxe, dans une espèce de paranoïa assez folle, où en fait on veut planter, mais en même temps on coupe, vous voyez. Mmh. Où on ne donne pas les éléments. Troisième fausse bonne idée, les forêts urbaines.
Ah. Ça va faire plaisir à beaucoup de monde, mais voilà, alors, je dois dire, je vous coupe, que vos critiques sont assortis également de propositions, et on va y venir juste après la pause musicale, c'est pour que celles et ceux qui nous écoutent restent avec nous, et que pour les forêts urbaines, comme pour d'autres sujets, vous n'y allez pas de main morte sur la critique, mais vous le faites toujours de manière bienveillante et constructive, et ça je tiens à le dire, parce que parfois les termes sont aussi une forme de marketing territorial qui permettent de raccrocher, dit-on, certaines citoyennes et certains citoyens qui seraient rétifs à la présence de nature ou de paysages en ville, de les raccrocher à notre cause, à votre cause. Alors, pourquoi, fondamentalement, le terme de forêts urbaines, au-delà de cette considération, vous heurte, Caroline Molly ?
Parce que une forêt est une forêt, une ville est une ville, et que dans la longue histoire des relations entre l'homme et la nature, dans la ville, il est arrivé à créer tout un vocabulaire d'insertion ou de plantation dans la ville. Et on a par exemple les parcs, les jardins, les squares, les avenues plantées, qui sont réellement des conceptions, des inscriptions de l'arbre, enfin du végétal dans la ville. Et que faire croire au public qu'on va lui créer une forêt dans la ville, c'est du mensonge. Les gens s'imaginent avec le terme forêt qu'ils vont avoir un très beau couvert végétal avec une très belle lumière, des petits oiseaux, du silence, etc. C'est faux, c'est complètement faux, on ne peut pas créer une forêt. Donc, si vous dites à un comité de quartier, on va vous créer un petit jardin, les gens comprennent. On va vous créer un petit square, les gens comprennent. Si vous leur dites, on va vous créer une forêt, parce que ça va faire... ça va lutter contre les puits de chaleur urbaines, ça va vous apporter de la biodiversité. Et ils disent, bon, bah, d'accord, forêt urbaine, oui. Et puis la réalité, qu'est-ce qu'ils ont ? Ils ont des jeunes plants, plantés denses. Au bout d'un an, ils ont une petite broussaille. Au bout de 3 ans, ils ont une grande broussaille. Il y a les biologistes qui arrivent, les botanistes qui arrivent et qui comptent la biodiversité. Ils disent, c'est super, on a des plantes et tout ça. Mais bon, le Pékin du quartier, il n'a pas son parc, il n'a pas son petit jardin, il n'a pas son ombre, il n'a pas son banc, il n'a pas son point d'eau, il n'a pas ses fleurs, il n'a pas ses arbustes. Voilà, il n'a pas son espace de vie auquel il aspire dans son quartier. Donc, je suis contre.
Vous le dites très bien. Et c'est là où cette critique est fondée, expliquée, les mots ont un sens, les scientifiques ont travaillé sur le sujet. À propos des petits plans, vous rappelez l'importance et les choix qui ne sont pas toujours évidents sur la taille des sujets. On ne va pas rentrer dans ce détail-là, mais notamment en s'appuyant sur les pépiniéristes, ce qui peut être valable à un espace donné ne l'est pas forcément à un autre. Et effectivement, n'usurpons pas les termes. Et de la même manière que vous nous avez parlé tout à l'heure d'arbres de compagnie et d'espace, le projet de paysage urbain est une synthèse de différentes composantes. Effectivement, la biodiversité, nous en reparlerons. Les bénéfices, comme on dit aujourd'hui, les services rendus pour la population et cette structure de l'espace dont vous venez de nous parler. Merci pour cette première partie. Alors avant de poursuivre cette exploration dans la cime jusqu'aux racines des arbres pour bien planter la ville demain, prenons une courte pause musicale. Il a écrit et chanté « Nous avons toute la vie pour nous amuser, nous avons toute la mort pour nous reposer ». C'est tout le mal qu'on vous souhaite à toutes et à tous qui nous écoutez, et vous ici même, depuis le jardin des Tuileries. Cette philosophie de cet auteur que je citerai tout à la fin, de ce conducteur qui est en train de déraper, cet auteur nous a aussi légué les eaux de Mars. Écoutons les eaux de Mars de Georges Moustaki.
pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine. C'est un peu solitaire, c'est un éclat de verre, c'est la vie, le soleil, c'est la mort, le sommeil. C'est un piège entrouvert, un arbre millénaire, un nœud dans le bois. C'est un chien qui aboie, c'est un oiseau dans l'air, c'est un tronc qui pourrit, c'est la neige qui fond, le mystère profond, la promesse de vie. C'est le souffle du vent au sommet des collines, c'est une vieille ruine, le vide et le néant. C'est la pluie qui jacasse, c'est l'averse qui verse des torrents d'allégresse. Ce sont les eaux de Mars, c'est le pied qui avance, à pas sûr, à pas lent. C'est la main qui se tense, c'est la pierre qu'on lance. C'est un trou dans la terre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire. C'est un oiseau dans l'air, un oiseau qui se pose, le jardin qu'on arrose, une source d'eau claire, une écharde, un clou. C'est la fièvre qui monte, c'est un conte à bon compte, c'est un peu rien du tout. Un poisson, un geste, c'est comme du vif argent. C'est tout ce qu'on attend, c'est tout ce qui nous reste. C'est du bois, c'est un jour, le bout du quai. Un alcool trafiqué, le chemin le plus court. C'est le cri d'un hibou, un corps ensommeillé. La voiture rouillée, c'est la boue. Un pas, un pont, un crapaud qui croasse. C'est un chaland qui passe, c'est un bel horizon. C'est la saison des pluies, c'est la fonte des glaces, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie. Serpent qui attaque, une entaille au talon, un pas, une pierre, un chemin qui chemine, un reste de racine, c'est un peu solitaire, c'est l'hiver qui s'efface, la fin d'une saison, c'est la neige qui fond, ce sont les eaux de Mars, la promesse de vie, le mystère profond, ce sont les eaux de Mars. Dans ton...
C'était Georges Moustaki, les eaux de Mars. Et malheureusement, la sécheresse de mai. Nous sommes donc avec Caroline Molly, architecte paysagiste, pour cet ouvrage « À l'ombre des arbres » qui vient de paraître. Et nous citions Gilles Clément et son jardin planétaire. C'est une transition toute trouvée pour moi avec la question qui vient, qui concerne les palettes végétales, puisque dans votre précédent ouvrage, « L'urbanisme végétal », paru en 1993, il y a donc 30 ans tout juste, et réédité en 2009 avec le concours de Valor, sous le titre « Des arbres dans la ville », vous parliez des modes de plantation, et notamment hier, la ville d'hier, qui s'appelle « Hier les palmiers ». Et si la vogue de l'exotisme ne semble plus tout à fait d'actualité, on parle beaucoup de local, d'indigène. On mélange d'ailleurs, de mon point de vue, souvent des qualificatifs sans forcément en maîtriser la définition. Alors il est évident que les connaissances scientifiques en matière d'écologie scientifique, nous invite à rompre avec l'emploi d'une seule espèce, d'une seule variété, à diversifier les plantations. La gestion différenciée, pour ne pas dire la gestion écologique des espaces verts, qu'on appelle de plus en plus, et c'est heureux, des espaces de nature en ville, invite à faire une bonne place au spontané, au moins autant qu'au cultivé. Mais, vous le soulignez aussi dans votre livre, on demande de plus en plus au végétal, en particulier dans le contexte de réchauffement climatique et des nombreux dérèglements qu'il induit. Je rappelle des chiffres, la France travaille à un scénario d'adaptation pour faire avec le déjà-là climatique et la machine est engagée probablement pour une élévation moyenne des températures de plus 4 degrés à l'horizon 2100. C'est une moyenne, ce qui veut dire des écarts beaucoup plus significatifs dans certaines régions de France. Et des températures de 50 degrés à Paris. Paris vient de remettre une mission d'étude de 6 mois transpartisane, tous les partis s'y sont mis, pour adapter Paris à 50 degrés, puisque cet horizon est proche. Qu'est-ce que ça vous inspire, ces débats sur c'est local, pas local, et ce mélange de termes, Caroline Molly?
Dans le contexte du réchauffement climatique, hein, je le reprécise parce que c'est des questions qui nous sont très, très souvent posées. Qu'est-ce qu'il faut planter, madame? Qu'est-ce qu'on peut planter? Qu'est-ce qu'on doit planter? C'est très compliqué. Et je crains malheureusement qu'il n'y ait pas de réponse. Les recherches ont commencé sur l'adaptation des espèces à des grosses températures. Il n'y a pas à l'heure actuelle de liste officielle.
Officielle, absolument.
Plantes et cités commencent à travailler sur des observations in situ de maintien et de santé des arbres dans des conditions extrêmes, dans des conditions restreintes. Mais pour l'instant, c'est très difficile. Donc, je ferai d'abord un petit une observation sur la question de la climatation. On entend pas mal des groupes de pression insister pour avoir des plantes climatiques, des plantes locales. Et pour moi, c'est assez étonnant. Je comprends pas très bien le propos. Ne serait-ce que, à commencer par les végétaux, par les légumes que l'on consomme, la majorité de nos légumes viennent de pays étrangers. La majorité de nos arbustes et arbres d'ornement viennent de pays étrangers. La grande majorité de nos arbres, les marronniers ici, ne sont pas locaux. Ce sont des arbres, ce sont des arbres comme les platanes qui viennent d'Asie, qui viennent d'Amérique. Et cette idée d'acclimatation, cette idée des grandes expéditions pour aller chercher des plantes, pour les ramener, pour les acclimater, pour voir comment elles tiennent dans le temps, pour les inscrire dans les jardins, c'est ce qui passe dans les fêtes de jardin aussi. On se passe les plants, on se passe les graines, on se passe ci, on se passe ça. Pour moi, c'est un peu cette espèce, enfin, c'est normal que quand on a la fibre végétale, on accepte d'expérimenter, de voir et de s'ouvrir sur toutes les espèces étrangères. Alors, si on ne mettait que les espèces locales, on aurait une palette de 10 arbres et puis voilà, ça ne va pas plus loin. Hein.
Donc l'un n'exclut pas l'autre.
Donc pour moi, il faut continuer. Il faut continuer avec ces expérimentations et ces acclimatations, d'autant plus que justement, un certain nombre de pays vont pouvoir nous apporter des plantes qui vont résister à la sécheresse. Et ça, c'est le problème, c'est que c'est un travail sur le long terme. C'est que c'est dans 30 ans qu'on saura si telle espèce introduite il y a peu de temps va tenir dans le temps. Alors on a tous les jardins botaniques, on a tous les jardins, par exemple sur la Côte d'Azur, tous les jardins qui ont été plantés par les Anglais au 19e siècle, d'espèces très exotiques, très lointaines. Là, ça peut nous donner une
inspiration et une référence.
Donc je suis pour l'ouverture totale à toutes les expériences. Et dans la perspective de ces modifications climatiques, réchauffement, ce que j'entends, n'étant pas vraiment technicienne, si vous voulez, en la matière, ce que j'entends et ce qui me semble raisonnable, c'est d'éviter la monospécificité.
Autrement dit, une seule espèce, pour celles et ceux qui sont moins familiers du terme.
Et d'aller vraiment dans la diversité, c'est-à-dire dans une ville, sur une place, dans un jardin, on va planter différentes espèces avec différentes floraisons, différentes foliaisons, différentes. On a risqué très gros, on est passé très près de la catastrophe avec la maladie du platane.
Absolument.
J'ai l'impression qu'elle est un petit peu jugulée, mais bon.
Mais ça a été une bonne leçon aussi sur la nécessité de diversifier les palettes végétales.
Donc, la réponse à cette question, c'est vraiment de ce que j'entends et de ce que je crois être dans une espèce de bon sens paysan ou forestier, c'est ne pas mettre toutes ses billes dans le même panier.
Voilà, ne mettons pas tous nos œufs dans le même panier. Retenons ce mot-clé de diversité et d'absence de ségrégation, en étant très attentif aux évolutions du climat, au comportement réel des arbres, qu'il s'agisse d'arbres en pépinière, puis ensuite en ville en particulier, où les contraintes sont plus massives. Vous vouliez préciser quelque chose,
Caroline
Molly?
Oui, je voulais préciser quelque chose qui va toujours dans cet esprit de bon sens que j'ai essayé de développer à la fin de mon livre, de retour au bon sens. Hein. C'est que vous donnez les bonnes conditions, on en revient au tiercé gagnant, de l'air, de la terre et du temps à une espèce, elle ira chercher l'humidité assez profondément dans le sol et elle a beaucoup plus de chances de tenir dans le temps que si vous lui donnez un dé à coudre.
Alors justement, ce tiercé gagnant de l'air, de la terre, du temps. Je le disais dans cet ouvrage, à l'ombre des arbres, planter la ville pour demain, très abordable pour le grand public grâce à des photos qui font le bilan de 30 ans, qui embrasse la publication de ces deux ouvrages, L'urbanisme végétal en 1993 et À l'ombre des villes aujourd'hui, avec les illustrations. Vous n'y allez pas de main morte, vous aiguillonnez, il n'y a aucun tabou, tous les sujets sont abordés, mais au-delà de la critique, car comme dirait un pépiniériste que je connais bien, la critique est facile, l'art est plus difficile, vous proposez des solutions et des bonnes pratiques. Caroline Molly, nous pourrions être ici ensemble, et je pense que les spectateurs qui sont là et nos auditrices et nos auditeurs ne me contrediront pas, hormis ma voix un peu cassée, nous pourrions être ensemble pendant des heures. Alors c'est aussi un défi que de tenir ce peu de temps qui nous est imparti, mais quelle bonne pratique, quel trio, pour ne pas dire tiercé gagnant, vous nous donneriez à travers des exemples qui ont richement nourri votre parcours professionnel.
Eh bien, je reviendrai justement à ma pratique professionnelle. Mon cœur de métier, c'est architecte paysagiste. Et je pense que le projet de paysage est, je dirais, un préalable à la réussite de la végétalisation urbaine. C'est-à-dire que il faut concevoir le projet végétal, concevoir la palette végétale, le projet végétal, dans un contexte plus large d'espace. Et concevoir la façon dont les gens vont accueillir, dont ils vont il faut penser aux personnes qui vont vivre ces espaces. Il faut savoir que un espace sera plus ou moins agréable, plus ou moins ombragé, plus ou moins éclairé. C'est ce couvert végétal qui... curieusement, si vous voulez, les arbres peuvent créer des lieux, peuvent créer des espaces, au même titre qu'un architecte fait une maison et crée une chambre à coucher, un salon, une salle à manger. Donc, il voit les proportions de l'espace. Nous, on plante un arbre, on fait sur un plan, on fait un rond, et puis on se dit, bon, ça va être un arbre et tout ça. Il faut penser au projet. Le projet est quelque chose de très important, et c'est ce qui apporte un supplément d'âme à la ville et au projet végétal. Donc le projet est important. Ensuite, il faut voir effectivement les conditions dans lesquelles on va introduire des arbres qui ne sont pas faits pour vivre dans une ville. En collaboration avec les autres services d'une ville, regarder là où ça peut se faire, là où ça ne peut pas se faire, quels sont les aménagements à apporter pour que l'arbre que l'on va planter puisse se développer correctement, l'air, la terre, le temps. Ensuite, ne pas y toucher. Je reviens à ce qu'on a dit, ne pas y toucher, s'en occuper les 3, 4, 5 premières années et ensuite le laisser tranquille, le laisser se développer, faire quelques tailles de formation, quelques tailles quelquefois de rectification de couronne quand ça s'approche trop près des façades. Et ensuite, se faire plaisir et le regarder et être bien sous les arbres. Je n'ai pas grand-chose à dire de plus. En fait, ils n'ont pas besoin de grand-chose. Ils ont simplement besoin qu'on leur donne des bonnes conditions de vie et qu'on leur foute la paix.
Alors, c'est notre projet. Je ne sais pas si c'est vous qui avez inspiré une décade de succès dans un autre domaine. C'est une boutade. Oui. Le projet, les éléments et ensuite, profiter. D'ailleurs, vous profitez beaucoup et je rappelle que cet ouvrage À l'ombre des arbres est richement documenté. Un peu à la manière d'une Agnès Varda, non pas caméra au point, mais appareil photo en bandoulière. Et avec vos confrères comme Corinne Bourgerie, plutôt que l'artiste JR, que je salue, il comprendra, vous nous abreuvez, vous nous nourrissez et vous nous émerveillez de votre propre émerveillement, Caroline Molly. Et nous arrivons au terme bientôt de cette émission. Et justement, cet émerveillement, cette vocation, quelque part, vous êtes entré en vers, comme certains pourraient entrer en religion. Ma question, c'est d'où est-ce que cette vocation vous est venue, sans narrer tout votre parcours, quel a été l'élément déclencheur qui a fait que vous vous êtes intéressé à l'arbre de compagnie, aux arbres de compagnie, aux arbres en ville, et en avez fait votre carrière professionnelle et bien plus.
Quand j'étais petite, on disait Caroline aime la nature. Et quand j'étais plus grande, on disait aussi Caroline aime la nature. Et quand j'ai été adulte, j'osais à peine dire j'aime la nature parce que c'était un peu cucu la praline. C'était justement cette période des 30 glorieuses où il fallait vraiment construire et tout ça. Aimer la nature, c'était où ? Elle est un peu hors sol, celle-là. Et en fait, j'étais plutôt dans le sol. Et ayant été éduquée, ayant vécu en ville et à Paris notamment, et j'étais très malheureuse, j'ai reporté cet amour de la nature dans mon métier. J'ai eu la chance de trouver le métier qui me convenait. Et ensuite, au ministère de l'Environnement, ça s'est déroulé comme ça, petit à petit, notamment à partir d'une inquiétude sur l'élagage. On a commencé, l'association des directeurs d'espaces verts des villes avait alerté le ministère sur les pratiques d'élagage qui bousillaient notre patrimoine à l'époque. Et on m'avait dit, oh, bah, écoutez, vous êtes paysagiste, là il y a un problème, regardez ça. Et à partir de cette question un peu qui m'est tombée sur le bureau, comme ça un jour, j'ai commencé à défiler le fil, tirer, et retrouver vraiment l'idée, le domaine dans lequel je me sentais bien pour travailler, pour évoluer.
Et pour celles et ceux qui nous écoutent, notamment les lycéennes et les lycéens qui trépignent d'impatience, attendant que l'algorithme de Parcoursup leur attribue leur avenir, 15 années de pépinière scolaire plus tard, qu'est-ce que vous leur diriez pour qu'ils s'engagent, elles et eux aussi, dans la voie du végétal et plus largement du vivant ?
D'abord, il faut aimer la nature. Il faut être moitié artiste, moitié jardinier. Donc, aller voir des expositions, être toujours au courant de ce qui se passe en termes de création contemporaine. Pour moi, c'est vraiment important. Ça ne va pas l'un sans l'autre. Mmh. Et l'autre, c'est aimer la nature, tout simplement. Et après, je leur dirais, si vous avez ces deux qualités ou ces deux aspirations, allez-y, foncez, c'est un métier de passion.
Alors, aimer la nature et cette passion, elle est communicative dans votre ouvrage dont je rappelle qu'il vient de paraître, À l'ombre des arbres, planter la ville pour demain, aux éditions, de La Chaux, et vous nous gratifiez d'une signature qui va faire rougir de jalousie tous nos auditeurs qui ne sont pas ici avec nous, et qui vient, cet ouvrage, embrasser 30 années de publication, puisqu'il y a eu l'urbanisme végétal et cette étape intermédiaire des arbres dans la ville, et j'espère bien obtenir deux dédicaces. Caroline Molly, pardon, merci pour cet entretien qui, en si peu de temps, nous avons tenu le défi des 45 minutes, ne saurait résumer une vie d'engagement pour le règne végétal, pour ces arbres, quels qu'ils soient, qui nous font du bien. Alors Françoise Héritier, avec laquelle je partage le fait d'être née dans la Loire, près de Saint-Étienne, parlait du sel de la vie. Ce petit ouvrage que je vous invite à parcourir de temps en temps, elle nous dit, je la cite ici, « J'ai oublié les fous rires, les coups de fil à bâton rompu, les lettres manuscrites, les repas de famille, certains, ou entre amis, les bières au comptoir, les coups de rouge et les petits blancs, le café au soleil, la sieste à l'ombre, manger des huîtres en bord de mer ou des cerises sur l'arbre. Ouais. » La sève de la vie. Voici ce dont nous nous sommes nourris, grâce à vous, aujourd'hui. Merci, Caroline Molly, pour tout cela, nous vous disons merci. Chères auditrices, chers auditeurs, ce plateau organisé par Cité Verte Europe avec le concours de l'Union européenne et le truchement de l'interprofession des fleurs, du paysage et du végétal, je le dis dans le désordre, mais c'est toujours un tiercé gagnant, touche à sa fin. Et j'espère que vous avez pris autant de plaisir à converser avec vous, Caroline Molly, que j'en ai pris aujourd'hui. Portez-vous bien, cultivez votre jardin et surtout, restons en lien.
Pour une ville nature, un cycle Cité Verte Europe organisé par Valor, une campagne financée avec le concours de l'Union européenne.